RFI, il est midi à Damas, 10h à Paris, 1h de moins en temps universel. Merci d'écouter RFI, c'est l'heure d'un nouveau journal.
Alban Le Prince.
Et à la une, la communauté chrétienne de Homs en Syrie qui espère un avenir meilleur bientôt un mois après la chute de Bachar al-Assad. Le nouvel homme fort du pays a reçu cette semaine les responsables chrétiens. Reportage dans un instant. La solidarité continue de s'organiser dans l'Hexagone pour Mayotte, 3 semaines après le passage du cyclone Chido qui a fait au moins 39 morts. Il doit être présenté demain au procureur de la République. L'homme accusé d'avoir tué une fillette de 12 ans la nuit du Nouvel An au Sénégal a été arrêté. Les détails dans ce journal. Et puis la doyenne de l'humanité Tomiko Itoka, 116 ans, est décédée hier, symbole de ce Japon où les records de longévité atteignent des sommets avec plus de 95 000 centenaires. Le nouveau ministre syrien des Affaires étrangères entame ce matin sa visite du Qatar, première étape d'une tournée qui le conduira aussi aux Émirats arabes unis et en Jordanie près d'un mois après la chute de Bachar al-Assad. Le nouveau dirigeant Ahmed al-Shara, que l'on connaissait jusqu'ici sous son nom de guerre Abu Mohamed al-Jolani, qui avait promis de respecter toutes les minorités, a d'ailleurs reçu cette semaine les responsables chrétiens. Mais à Homs, la population chrétienne est partagée entre crainte et espoir. Reportage pour RFI d'Abla Jounaïdi.
Au cœur de la vieille ville, les immeubles en pierre sombre et le charme des petites ruelles laissent souvent place aux traces des destructions causées par les bombardements du régime. Nombreux sont les habitants qui ont déserté le quartier au plus fort de la guerre, pas ces deux sœurs qui désormais doutent.
Nous sommes dans l'inconnu, on ne sait pas à quoi s'attendre, donc on vit au jour le jour. On se dit qu'aujourd'hui on se sent en sécurité, et on remercie Dieu, mais demain, on n'en sait rien. Quoi qu'il arrive, nous ne sommes pas partis d'ici, car c'est notre région, notre maison et notre vie. Cela nous suffit d'être ensemble. À la fin, on sort de chez soi et on implore Dieu. C'est donc qu'on s'en remet à lui, alors laissons-le faire.
Dans sa petite boutique, Fada ne regrette pas l'ancien régime qui se présentait comme protecteur des minorités. Elle peut enfin sortir librement de chez elle. Les hommes de Hayat Tahrir al-Sham ne la gênent pas.
Non, au contraire, ils passent toute la journée devant ma boutique. Je les vois en sortant faire mes courses. Ils sont très respectueux. Dans notre quartier, El Hamidiyye, on a essentiellement des musulmans et des chrétiens.
Ailleurs, dans les quartiers alaouites, la minorité dont faisait partie le clan Assad, des opérations de désarmement des anciens soldats et miliciens du régime déchu se poursuivent. Leurs échos lointains parviennent jusqu'à Al-Hamidiyye. Abla Junaidi, Homs, RFI.
Et dans le nord de la Syrie, près de la ville de Manbij, où les combats font rage entre pro-turcs et kurdes, l'Observatoire syrien des droits de l'homme rapporte ce matin que plus de 100 personnes sont mortes depuis vendredi soir. Toujours au Proche-Orient, l'armée israélienne affirme ce dimanche avoir frappé plus de 100 cibles ces deux derniers jours dans la bande de Gaza, alors que la branche armée du Hamas a diffusé une nouvelle vidéo d'une otage impossible à dater qui appelle le gouvernement israélien à agir pour obtenir sa libération. C'est dans ce contexte qu'Israël a finalement confirmé hier la reprise de ses négociations indirectes avec le Hamas. 3 semaines après le passage du cyclone Chido qui a fait au moins 39 morts et 5600 blessés, Marine Le Pen, chef des députés Rassemblement National, est attendue à Mayotte aujourd'hui. Coup d'envoi d'une visite qui devrait durer jusqu'à mardi pour l'ancienne candidate à la présidentielle qui avait obtenu près de 60% des voix en 2022 sur l'archipel. Elle rencontrera secouristes et sinistrés, tandis que dans l'Hexagone, la solidarité continue de s'organiser. Exemple avec les collectes de dons à la Bourse du Travail de Saint-Denis, en région parisienne, organisée par l'ONG Outre-mer Solidarité Catastrophe Mayotte. Siti Maliki est l'une de ses membres.
Alors, en priorité, on a collecté les besoins les plus urgents, immédiats, les besoins vitaux. C'est boire, dans un premier temps, boire de l'eau. Donc, aujourd'hui, on a reçu 2 camions d'eau, des packs d'eau. Ça, c'est plus de 2 palettes. C'est plus de 200 packs d'eau. C'est énorme, sur chaque palette, dans chaque camion. Ils vont revenir encore. On a reçu du lait infantile, des couches bébés. Donc, on a arrêté les vêtements pour femmes, pour hommes. On a reçu des produits de pharmacie et on priorise les denrées alimentaires non périssables. Et vraiment, c'est magnifique. C'était l'ordre de générosité.
Des propos recueillis pour RFI par Sylvie Kofi. En Corée du Sud, des milliers de partisans et détracteurs de Yoon Suk-yeol bravent la neige ce dimanche. Ils manifestent à la veille de l'expiration du mandat d'arrêt visant le président déchu que les enquêteurs ont essayé vendredi d'interpeller un mois après sa tentative ratée d'imposer la loi martiale. Dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, les rebelles du M23 ont réussi à s'emparer hier de la ville de Masisi, ville clé de l'est du pays, situé à environ 80 km de Goma, où les rebelles avaient continué de gagner du terrain ces derniers jours suite à l'échec d'un sommet prévu à Luanda, en Angola, mi-décembre, entre les chefs d'État de la République démocratique du Congo et du Rwanda, au cours duquel un accord pour le rétablissement de la paix et de la stabilité dans la région devait être mis sur la table en vain. Au Sénégal, fin de cavale pour le meurtrier présumé de la petite Souadou, 12 ans, tuée la nuit du Nouvel An. La police a donc interpellé un homme qui doit être présenté demain au procureur de la République, un suspect qui connaissait bien la fillette et dit avoir agi sous l'emprise de la drogue. La correspondance à Dakar pour RFI de Birahim Touré.
Elle s'appelait Souadou Sow. Son présumé meurtrier lui était très familier. C'est le papa de sa meilleure amie âgée comme elle d'à peine 12 ans. Souadou a été étranglé alors qu'elle revenait de l'échoppe du coin pour ramener des cigarettes à son tonton, comme demandé par ce dernier. Elhaj Modoufal, le présumé meurtrier, a profité de cet instant pour lui ôter la vie, selon le commissaire de police de Malika, dans la banlieue de Dakar, où les faits se sont déroulés. La chef de la police de la localité, le commissaire Adiakou Mbengai, révèle que dès la première audition, le présumé meurtrier a avoué son forfait tout en niant une tentative de viol. Une autopsie a été demandée. Elhaj Modoufal, âgé d'une trentaine d'années, sera encore présenté au procureur ce lundi après un premier face-à-face vendredi dernier. Plusieurs associations de défense des droits de l'homme sont montées au créneau pour condamner cet acte et la ministre sénégalaise de la Famille a demandé à la justice d'appliquer la loi dans toute sa rigueur. Birahim Touré, Dakar, RFI.
Il est 4h07 à Washington. Les États-Unis font leurs adieux à Jimmy Carter, 39e président américain et prix Nobel de la paix, décédé le 29 décembre à l'âge de 100 ans. Le coup d'envoi de 6 jours de cérémonie a été donné hier dans sa ville natale de Plains, en Géorgie, avant la journée de deuil national prévue le 9 janvier. Jusqu'à mardi matin, les Américains pourront se recueillir devant sa dépouille au Carter Center, sa fondation installée à Atlanta, avant d'être transportés jusqu'au Capitole à Washington. En hommage, les drapeaux ont été mis en berne pour 30 jours, y compris le 20 janvier, jour du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, ce qui a provoqué sa colère. Il affirme que personne ne voulait voir ça pendant sa cérémonie d'investiture. Donald Trump, qui a rencontré hier Giorgia Meloni, la première ministre italienne à Mar-a-Lago, en Floride, 5 jours avant son entretien prévu à Rome, cette fois-ci avec Joe Biden. Elle était la doyenne de l'humanité, la japonaise Tomiko Itoka, est morte hier à l'âge de 116 ans. Née le 23 mai 1908, elle était l'un des symboles du vieillissement de la population. Car pour la 54e année consécutive, le Japon a battu en 2024 un nouveau record de longévité avec plus de 95 000 centenaires. 90% d'entre eux sont des femmes. Les précisions à Tokyo de Frédéric Charles.
Au Japon, une doyenne de l'humanité en cache souvent une autre. C'est le pays industrialisé où l'on vit le plus vieux. Le nombre de ses centenaires prolifère. Il en compte plus de 4000 par an. Tomiko Itoka, née à Osaka, aura tout connu. Des guerres, des pandémies, des tremblements de terre, le réchauffement climatique. Elle était inoxydable. Dans sa jeunesse, elle est joueuse de volley-ball. À 20 ans, elle se marie. Octogénaire, elle escalade plusieurs montagnes. Ce n'est qu'à 110 ans qu'elle entre dans une maison de retraite. Le secret de sa longévité exceptionnelle, une vie active jusqu'au bout, intégrée dans la communauté, un corps, un esprit fonctionnel, jusqu'à son dernier souffle, un régime diététique adapté, riz, poisson, soja, une affection pour les bananes et le calpis, une boisson à base de ferments lactiques. Le maire de sa ville, un jeune 27 ans, Ryosuke Takeshima, dit « Notre doyenne Tomiko nous a donné de l'espoir » tout au long de sa vie. Certes, mais pour l'État japonais, ce déluge de centenaires coûte cher. La tradition veut qu'il leur accorde une coupe en argent massif. Pour faire des économies, l'État réduit la taille des coupes qu'il leur offre. Frédéric Charles, Tokyo. RFI.
Et après la mort de Tomiko Itoka, la nouvelle doyenne de l'humanité brésilienne, Ina Canabaro Lucas, 116 ans, née un mois plus tôt, selon le groupe de recherche gérontologique des États-Unis. Il est 10h10 à Paris, 9h10 en temps universel. Le prochain journal, c'est dans une heure sur RFI.